إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc c'est la suite de l'explication de l'adab al-mufrad à l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala, car il lui fasse miséricorde. Explication faite par le Cheikh Zayd ben Mohammed ben Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, car il lui fasse miséricorde. Par rapport au livre et l'importance du livre et l'importance du sujet, Inch'Allah, revenez au premier cours qui existe d'ailleurs en audio et en note en PDF sur le site spfbirmingham.com. On est arrivé au chapitre Babu Birril Umm. L'imam Bukhari rahimahullah, il a mis un chapitre qui s'appelle chapitre de la bonté envers la mère. حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. Donc l'imam Bukhari rahimahullah, car il fasse miséricorde, il dit chapitre de la bonté envers la mère. Abu Asim nous a dit, حدثنا, d'après Baz ibn Hakim, d'après son père, d'après son grand-père, j'ai dit, ô messager d'Allah, envers qui dois-je être bon? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, envers ta mère. J'ai dit, envers qui dois-je être bon? Envers qui dois-je être bon? Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit, envers ta mère. J'ai dit, envers qui dois-je être bon? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, envers ta mère. C'est-à-dire qu'il dit trois fois. J'ai dit, envers qui dois-je être bon? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la quatrième fois, envers ton père, puis ceux qui sont les plus proches de toi, et ainsi de suite. Maintenant, l'explication de Cheikh Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde, elle dit, rahimahullah, هذا الحديث الجليل فيه توجيه رحيم ممن وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبينا محمد عليه من ربي أزكى الصلاة وأتم التسليم ولابد من التقيد به، فالأم لما لها من الفضل والمتاعب في حالات متعددة، في حال بدء الحمل تعاني أمراضا شديدة، ويعرف النساء يسمونه الوهم، وفي حال الحمل الذي أغلبه 9 أشهر تحمله في بطنها مع القيام بالمتاعب والخدمات التي تزاولها، وإذا جاء دور الولادة فهي معرضة للتعب الكبير والخطر الشديد حتى تلد، ثم يأتي دور الرعاية في حال الطفولة من العناية بالولد لإرضاعه وتنظيفه من الأذى والخوف عليه وحمله إلى ما هو معروف عند الناس. جاء لها 3 أنواع البر، وهذا من عدل الإسلام، والأب له متاعب ولكن جاء في المرتبة الأخيرة ولا يهون من حقه، ولكن حق الأم أضعاف ما للأب، فالأب يحن على الولد وينفق عليه ويعمل الأسباب من أجل أن يصبح الابن رجلا صالحا إن كان ذكرا، وخير ما يقدمه الأب لابنه تعليمه العلم الشرعي وربطه بتعاليم الإسلام ورعايته في هذا الجانب العظيم مع حماية جسده وحماية أخلاقه ورعايته رعاية كاملة يؤجر عليها، فكم له من الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومثل الذكر في العناية من الأبوين الأنثى هذا بالنسبة للأب، وأما الأم فأجرها أيضا على قدر إحسانها إلى الإبن والبنت. وقد رأيت أن الشارع الحكيم أعطاها 3/4 البر. L'explication de Cheikh Zayd, rahimahullah ta'ala, il dit, il y a dans ce noble hadith une orientation miséricordieuse de la part de celui qui a été décrit par son Seigneur comme étant miséricordieux et compatissant vers les croyants. Notre prophète Mohammed, que soit sur lui de la part de son Seigneur la plus pure des prières et la plus complète des salutations. Et il est obligatoire de se tenir, car la mère, en raison de ce qu'elle détient comme préséance et en raison des fatigues dans de nombreuses situations, elle souffre de maladies sévères au début de la grossesse, et cela est connu par les femmes comme étant al-waham, et pendant la grossesse qui est de 9 mois dans la majorité des cas, elle le porte dans son ventre tout en s'acquittant des choses difficiles et des tâches qu'elle exerce. Et lorsqu'arrive le temps de l'accouchement, elle est alors exposée à la grande fatigue et au grand danger jusqu'à ce qu'elle accouche. Puis ensuite arrive le temps de la protection et des soins pendant l'enfance, en s'occupant de l'enfant, en l'allaitant, en le nettoyant des saletés, et en ayant peur pour lui, et en le portant, et d'autres choses qui sont connues par les gens. 3 genres de bonté lui sont donc réservés, et cela fait partie de la justice de l'islam. Et le père aussi a des difficultés, mais il arrive au dernier degré, et on ne néglige pas son droit, mais le droit de la mère est de multiples fois supérieur à ce dont le père a droit. Le père éprouve de la tendresse envers l'enfant et suit bien ses besoins et fait les causes qui permettront au fils de devenir un homme vertueux. Si l'enfant est un mâle, et la meilleure des choses qu'offre le père à son fils est de lui enseigner la science de la religion et de l'attacher aux enseignements de l'islam. Et sa protection dans ce sens est une chose très importante, tout en protégeant son corps et en protégeant son comportement et en le protégeant d'une protection complète pour laquelle il est récompensé. Et donc, comme est grande la rétribution qu'il obtient auprès d'Allah le Très-Haut. Et la femelle est au même titre que le mâle, en termes de protection et d'attention de la part des parents. Ceci était au sujet du père. Quant à la mère, sa récompense est aussi proportionnelle à sa bonté envers le fils et la fille. Et tu as vu dans le hadith cité ci-dessus, ce que le législateur sage lui a donné, et ce sont les 3/4 de la bonté. Puis l'imam Bukhari, rahimahullah, il continue dans l'Adab Mufrad, il dit « Haddathana Sa'id ibn أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن العباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. الإمام البخاري رحمه الله il continue dans ce magnifique livre الأدب المفرد. Il dit سعيد بن أبي مريم nous a dit, le mot en arabe ici tu dis, حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير nous a informé, c'est أخبرنا. Et dans un cours précédent, on avait expliqué la différence. On avait dit que la différence, comme Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique, lorsqu'il explique la différence entre les deux termes, haddathana et akhbarana, il dit, al-ikhbar est plus général qu'al-tahdith. Celui qui a entendu le hadith directement du Cheikh dit haddathana. Tandis que s'il n'a pas entendu directement du Cheikh, mais qu'il lui a écrit, alors il dit par précision dans la parole, akhbarana. C'est-à-dire, même si c'est écrit. Et donc le mot akhbarana est plus général et haddathana est plus spécifique. Et donc al-tahdith est plus spécifique qu'al-ikhbar qui est plus général. Et la source est voir la cassette numéro 34 de Fatawa Jeddah. Donc je répète ici le sanad. Saïd ibn Abi Maryam nous a dit, Mohamed ibn Ja'far ibn Abi Kathir nous a informé en disant, Zayd ibn Aslam m'a informé d'après Ata ibn Yassar, d'après Ibn Abbas, qu'on les agrée tous les deux, qu'un homme est venu le voir et a dit, j'ai demandé une femme en mariage et elle a refusé de se marier avec moi. Et un autre l'a demandé en mariage, elle a voulu, elle a aimé se marier avec lui. Et je fus donc jaloux envers elle et je l'ai donc tué. Est-ce qu'il y a un repentir pour moi? il dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, le noble compagnon, est-ce que ta mère est en vie? Il répondit non. Il dit, repends-toi à Allah le Très-Haut, rapproche-toi de lui par les actes vertueux autant que tu en es capable. Je suis donc allé questionner Ibn Abbas quand il les agrée tous les deux. Pourquoi lui as-tu demandé si sa mère était en vie? Il répondit, radiallahu anhuma, je ne connais aucun acte qui soit aussi proche d'Allah le Très-Haut que la bonté envers la mère. L'explication de Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, rahimahullah, وفي هذه القصة الواردة في هذا الأثر الموقوف. ينفضل هذا السكس كسبة الموقوف إن شاء الله. بيان من الوالدة من الحقوق على الابن ذكرا كان أو أنثى. وقد تقدم معنا سؤال السائل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أبر يا رسول الله؟ قال له أمك. فردد عليه وهو يقول له أمك ثلاث مرات ثم أباك في الرابعة. هو دليل على أن للأم من الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى على المسلم ما لم يكن لغيرها من الآباء والأبناء وسائر الأقارب. Il y a dans ce récit rapporté dans ce athar mawquf. Ici c'est important de comprendre ce que ça veut dire mawquf. Al mawquf, c'est ce qui est attribué au compagnon en termes de parole ou d'action ou d'approbation. Et ça, c'est une définition donnée par Cheikh Abdel Mouhsin Abbad, qu'elle le préserve, et Cheikh Abdel Kalim Mourad, qu'elle lui fasse miséricorde, dans leur risala qu'ils ont écrite, Min At-Tiyab al-Minah fi Ilm al-Mustalah, page 47. Et donc, le Cheikh, il dit, la mise en évidence, il y a dans ce récit rapporté de ce Athar Mawquf, la mise en évidence de ce que la mère a comme droit sur l'enfant. Que l'enfant soit un mâle ou une femelle. Et nous avons vu précédemment la question de celui qui a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, envers qui dois-je être bon, au messager d'Allah? Il répondit, sallallahu alayhi wassalam, il lui a dit, envers ta mère. Il, sallallahu alayhi wassalam, a répété en disant, envers ta mère trois fois. Puis il a dit, envers ton père lors de la quatrième fois. Et ceci est une preuve que la mère a des droits, après le droit d'Allah le Très-Haut sur le musulman, que personne d'autre n'a parmi les pères et les fils et tous les proches. Puis Cheikh Zayd, rahimahullah, il continue en disant, وفيها القصة دليل على أن باب التوبة مفتوح للمذنب إذا وقع في ذنب من الذنوب وهو على قيد الحياة ورغب في التوبة فإن الله يقبل توبته إذا توفرت شروطها التي هي ترك الذنب والعزم على عدم العود إليه والندم على فعله فإن توبته تقبل مهما كان جرمه فأعظم الذنوب على الإطلاق الإشراك بالله تبارك وتعالى فإذا وقع المسلم في الشرك ارتد عن إسلامه وأراد أن يتوب فإنه يرشد إلى التوبة وأنها تقبل منه ولا يحجب عن التوبة مذنب صادق في توبته. وفي قصة الرجل الذي في بني إسرائيل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب وأخذ يسأل عن العلماء فدله بعض الناس على راهب عابد فذهب إليه وقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال لا توبة لك. فقتله وأكمل به المئة ثم ذهب يلتمس يسأل فدله بعض الناس على عالم من العلماء فسأله نفس السؤال الذي سأله الراهب فقال له هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة يا هذا؟ وأرشده إلى التوبة وقال له هاجر من بلدك فإنها بلد سوء إلى قوم كذا وكذا فاعبد الله معهم. فانطلق مستبشرا بذلك إلى القرية التي أرشده العالم بالذهاب إليها فلما كان في منتصف الطريق وافاه الأجل قبل أن يصل إلى القرية فاختصمت فيه الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول أتى تائبا فهو من نصيبنا وملائكة العذاب يقولون لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا في صورة آدمي فحكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أي مع أيهم يكون. فقال لهم يكون مع أهل الأرض التي هو إليها أقرب أي إن كان إلى الأرض التي يريدها أقرب فهو لملائكة الرحمة وإن كان أرض السوء التي خرج من أقرب فهو لملائكة العذاب. فجاء في بعض الروايات أنه نأى بصدره إلى الأرض الطيبة فصار إلى الأرض التي يريد الهجرة إليها أقرب فأخذته ملائكة الرحمة. وذلك دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وأن من صدق في توبته فإن الله يقبل توبته فما كان من الذنوب بين العبد وبين الله عز وجل فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يعاقبه إذا صدق في التوبة، وإن كان الذنب فيما يتعلق بحقوق العباد ومنها الدم، فإن الدم فيه ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وحق لولي الدم الذي يطالب بالقصاص أو الدية، وحق الله وحق لله تبارك وتعالى. فما كان من حق الله فهو يسقط بالتوبة الصادقة النصوح، وما كان من حق الولي فهو يخير بين ثلاثة أشياء. إذا كان القتل عمدا خير بين ثلاثة أمور: بين القود أو القود، وهو القتل، فيقتل القاتل الذي قتل قريبه، فيقتل القاتل الذي فيقتل القاتل الذي قتل قريبه، وسقط هذا الحق بالاستيفاء. وحق للمقتول، وهذا فات أوانه، فيبقى هذا الحق إلى يوم القيامة، ويشكو المقتول من قتله بين يدي الله، ولا يسمح أن يسقط حقه. وبحسب ما يقوم بقلب التائب من إيمان وتوبة صادقة، فالله تبارك وتعالى يرضي خصمه بما يشاء، ويريد لوجود التوبة. والشاهد من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما التمس له بابا يتوب منه لما قتل المرأة عمدا لأنها أبت أن تتزوجه. ولا شك أن قتل العمد جريمة منكرة عظمها الله تبارك وتعالى لقوله الحق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع هذا ما حجبت عن هذا القاتل التوبة، بل أرشد ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألك أم؟ يريد أن يرشده إلى برها، فإن بر الأم من أعظم الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان، يكفر بها سيئاته وترفع بها درجاته. فقال لا، فأرشده إلى أن يعمل أعمال الخير التي يقدر عليها ويصدق في التوبة، والله غفور رحيم. وهكذا ينبغي للعلماء أنهم لا يقنطون الناس من رحمة الله، فيلتمسون لهم أبواب الخير ويرشدونهم إلى الدخول إلى الله عز وجل منها. والله سمى نفسه الغفور الرحيم، فهو يغفر الذنوب ذنوب المذنبين، ويرحم المخطئين الذين تسلطت عليهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الذنوب الموبقة. Donc, cher ici, rahimahullah ta'ala, il dit, continuant en expliquant ce passage du chapitre de la bonté envers la mère, et dans ce athar mawquf d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit, il y a dans ce récit une preuve que la porte du repentir est ouverte au pécheur qui a commis un péché parmi les péchés tant qu'il est vivant. Et il a incité au repentir car Allah accepte son repentir si les conditions du repentir sont réunies. Ces conditions sont les suivantes: abandonner les péchés, la résolution de ne plus commettre ce péché, le regret de l'avoir commis. Le repentir est accepté quelle que soit la gravité du péché, car le plus grave des péchés de manière absolue est d'associer à Allah le Très-Haut, le shirk. Et si le musulman tombe dans l'association et apostasie, sort de l'islam, et qu'il veut se repentir, il est alors orienté vers le repentir et cela est accepté de sa part. Et celui qui a commis un péché mais est véridique, le repentir ne lui est pas empêché. Et il y a dans le récit de l'homme parmi les fils d'Israël qui avait tué 99 âmes, puis a voulu se repentir, et a commencé à questionner les savants. Certaines gens l'ont orienté vers un moine versé dans l'adoration. Et il s'est donc rendu chez lui et lui a dit: j'ai certes tué 99 âmes, est-ce qu'il y a un repentir pour moi? Le moine versé dans l'adoration lui répondit: il n'y a pas de repentir pour toi. Il le tua donc et compléta le chiffre de 100 âmes en le tuant. Puis il partit cherchant et questionnant, et certaines gens l'orientèrent vers un savant parmi les savants et le questionna de la même manière qu'il questionna le moine. Il lui dit: est-ce qu'il y a un repentir pour moi? Il lui répondit: oh toi, qui peut se mettre entre toi et le repentir? Et il l'orienta vers le fait de se repentir et lui dit: émigre de ta contrée, car c'est une contrée du mal, et va vers tel et tel peuple et adore Allah avec eux. Et donc il partit réjoui par cela vers le village vers lequel le savant lui avait conseillé d'aller. Et lorsqu'il fut à la moitié du chemin, il mourut avant d'arriver au village, et les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se disputèrent à son sujet. Les anges de la miséricorde disant qu'il est venu se repentant, et que donc il est à nous, et les anges du châtiment disant qu'il n'avait jamais fait de bien. Et donc Allah envoya un ange sous la forme d'un être humain qui jugea entre les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. C'est-à-dire, avec qui cet homme sera-t-il? Il leur dit alors, il sera avec les gens sur terre desquels il est le plus proche. C'est-à-dire que si la terre vers laquelle il voulait aller est plus proche, il sera alors pour les anges de la miséricorde. Et si la terre de mal dont il est sorti est plus proche, il sera alors pour les anges du châtiment. Il était rapporté dans certaines versions qu'il s'est rapproché par son torse de la bonne terre, et donc il fut plus proche de la terre vers laquelle il voulait émigrer. Et donc il fut pris par les anges de la miséricorde. Et ceci est une preuve de l'immensité de la miséricorde d'Allah le Très-Haut, que celui qui est véridique dans son repentir, Allah le Très-Haut accepte son repentir. Et donc les péchés qui sont entre le serviteur et son Seigneur, Allah le Très-Haut pardonne tous les péchés et il ne les châtie pas s'il est véridique dans son repentir. Et si le péché est lié au droit des serviteurs et parmi eux le droit du sang, alors le sang a trois droits. Un droit pour celui qui est tué, un droit pour le proche qui demande la loi du talion ou le prix du sang, et le droit d'Allah le Très-Haut. Et donc, ce qui est du droit d'Allah tombe par le repentir sincère et véridique. Quant au droit du proche, le choix lui est donné entre trois choses. Si le meurtre est intentionnel, le choix lui est donné entre trois choses. Soit que le meurtrier qui a tué son proche soit tué. Et ce droit tombe par le remboursement, l'istifa. Et le droit de celui qui a été tué et son temps est passé. Et donc ce droit reste jusqu'au jour du jugement dernier, le droit de celui qui tue le maqtoul. Et celui qui a été tué va se plaindre de celui qui l'a tué devant Allah. Et il n'est pas permis de faire tomber son droit. Et en fonction de ce qu'il a, il y a comme foi dans le cœur de celui qui s'est repenti, et de repentir sincère, Allah le Très-Haut satisfera son antagoniste par ce qu'il veut et sans raison de l'existence du repentir. Et le témoin argumentatif de cela est qu'Ibn Abbas, quand il les agrée tous les deux, lui cherche une porte par laquelle il peut se repentir, car il a tué la femme de manière intentionnelle, car elle a refusé de se marier avec elle, avec lui. Et il n'y a aucun doute que le meurtre intentionnel est un crime très réprouvable, dont Allah le Très-Haut a montré la gravité dans sa parole dont la traduction du sens est « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. » Sourate Nisa, verset 93. Et malgré cela, le repentir n'a pas été empêché à cet homme qui avait tué. Mais au contraire, Ibn Abbas, quand le Très-Haut les agrée tous les deux, ce noble compagnon, fils de compagnon, parmi les savants des compagnons, il l'a orienté, lui a dit « As-tu une mère ?» Il voulait l'orienter vers le fait d'être bon envers elle. Car la bonté envers la mère fait partie des actions pour lesquelles l'être humain est le plus récompensé, et pour lesquelles ses péchés sont les plus expiés, et pour lesquelles ses degrés sont le plus élevés. Il répondit non, et donc il l'a orienté vers les actions de bien qu'il est capable de faire, et d'être véridique dans son repentir, et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et c'est ce qui convient aux savants de faire, et c'est qu'ils ne jettent pas les gens dans le désespoir quant à la miséricorde d'Allah, et qu'ils leur trouvent les portes du bien, et qui les oriente à y entrer vers Allah le Très-Haut. Et Allah s'est nommé lui-même le très pardonneur et le très miséricordieux. Et donc, il pardonne les péchés de ceux qui ont commis des péchés, et enveloppe de sa miséricorde ceux qui ont commis des erreurs, parmi ceux qui ont été dominés par les démons humains et les démons des djinns, jusqu'à ce qu'ils tombent dans ceux dans lesquels ils sont tombés en termes de péchés qui amènent à la perdition. Et avec cela, on a fini ce cours. Et donc, le chapitre prochain, Inch'Allah, sera Babu Biril Ab, et c'est la bonté envers le Père. Wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.